Père David Nana, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Maria France. Alors, nous allons parler aujourd'hui de votre témoignage concernant la pastorale de la santé. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Je suis le père David Nana, du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire et actuellement délégué épiscopal de la pastorale de la santé du diocèse de Monaco. Après avoir été formé en psychologie pour l'accompagnement des personnes âgées et les personnes en fin de vie, je fais des études à l'université de Strasbourg 2, aujourd'hui Marc Bloch, où j'ai eu successivement la maîtrise d'État et le DEA d'État en théologie, puis habilité au doctorat. J'ai servi dans l'équipe pastorale du doyenné de Syrinx, dans le Haut-Rhin, et dans l'équipe de l'aumônerie œcuménique du centre hospitalier de Mulhouse pendant quelques années avant d'être affecté comme prêtre fidéi de Noun dans la paroisse Saint-Nicolas de Monaco en 2002. En 2004, après la paroisse, j'ai été nommé responsable de l'aumônerie du centre hospitalier Princesse Grâce, où je suis resté 14 ans jusqu'en 2018. Après cette mission, je suis retourné en paroisse comme vicaire à la paroisse Saint-Martin Sacré-Cœur avec la responsabilité de délégué épiscopal au service de la santé. Et donc, je participe aux réunions provinciales de la santé à l'archevêché de Aix-en-Provence et aux réunions nationales à Paris. Après cette transition de l'hôpital à la paroisse, où il fallait retrouver certains réflexes de la pastorale paroissiale, sous l'impulsion de Monseigneur Bernard Barcy, évêque émérite de Monaco, que je salue au passage, il m'a paru urgent de former d'abord un bureau diocésain de la pastorale de la santé pour ne pas travailler seul. Et je me plais à leur dire souvent que individuellement, nous proposons et ensemble, nous décidons. Il est formé par des représentants de ce qui fait l'ossature même de la pastorale de la santé diocésaine, à savoir l'aumônerie de l'hôpital, l'hospitalité, l'association Lourdes Cancer Espérance LCE et le SEM, le service évangélique des malades, lancé dans toutes les paroisses du diocèse en 2018. Ce service consiste à créer des groupes dans chaque paroisse pour une assistance spirituelle, morale et psychologique des personnes qui, pour des raisons de santé ou de l'âge, sont en train de perdre ou ont perdu tout lien avec leur paroisse. Et s'il leur arrive de poursuivre des soins à l'hôpital, passer le relais de l'assistance spirituelle à l'équipe de l'aumônerie de l'établissement. À Monaco, il y a 7 responsables du service évangélique des malades. Dans le cadre de toutes les paroisses, en accord avec leur curé, ils ont pour rôle de permettre un lien et une collaboration entre les autres services de la paroisse, de prévoir et organiser des temps forts pour et avec la participation des personnes malades et âgées, à la journée mondiale des malades, aux messes où ils peuvent recevoir le sacrement du malade, de veiller au discernement et à l'appel de nouveaux membres, ainsi qu'à renouveler régulièrement l'envoi en mission par le curé. Ces équipes, constituées l'an dernier en 2019, avec le bureau, l'urgence semblait être la formation de toutes ces équipes. Avec Madame Sylvie Siard, formatrice didacticienne ayant passé 17 années auprès des personnes âgées atteintes de maladies dégénératives, une formation avait été programmée sur 5 samedis de 9h30 à 16h30. 35 heures de formation qui s'articulaient autour de 4 points essentiels. 1. S'engager. réflexion sur le bénévolat. Qu'est-ce que le bénévolat? Deux, écouter. Qu'est-ce que l'écoute? Trois, connaître et gérer ses émotions. Et quatre, accompagner les outils de l'accompagnement. Cette formation a pris fin le 7 mars 2020 et notre nouvel archevêque a été ordonné le 8 et à partir du 15 mars, nous sommes entrés tous en confinement avec les règles sanitaires que vous connaissez et qui se poursuivent en s'adaptant jusqu'à nos jours. Durant cette nouvelle année pastorale 2020-2021, les visites étant pratiquement interdites pour le moment, nous avons mis l'accent sur deux événements, dont un a été déjà annulé, la veillée de prière du 28 novembre pour toutes les victimes des pandémies du sida et de la COVID-19. Le 4 février prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, nous comptons organiser une messe avec une messe pour tous les malades et toutes les victimes du cancer, présidée par notre archevêque à 18h à l'église Saint-Nicolas, si évidemment la situation sanitaire le permet. Mais entre-temps, pour maintenir la flamme de ce dévouement, avec tous les bénévoles, chaque jeudi soir, à partir des 21h10 par visio, nous disons ensemble le chapelet pour tous les malades et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Donc voici en gros ce que je pouvais dire concernant ma présentation et puis la pastorale de la santé ici à Monaco. De l'hôpital, ce que je retiens, puisque quand même j'ai fait quelques années à l'hôpital, 14 ans ici au centre hospitalier Princesse Grâce et puis quelques années au centre hospitalier de Mulhouse, j'en tire une expérience vraiment humaine et inédite, surtout la fragilité de notre espèce humaine et l'humanité de certains soignants. C'est très important car il y a beaucoup d'humanité à l'hôpital et on expérimente beaucoup notre fragilité humaine. Et il y a eu évidemment des moments qui ont été un peu difficiles. Quand on accompagne par exemple des personnes qui sont malades, dont il y a visiblement un acharnement thérapeutique et dont on sait qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et puis la famille est là. Cela n'a pas été facile, cela n'est pas facile. Et quelquefois, il a fallu vraiment les accompagner et puis surtout être présent jusqu'au bout. Quand certaines familles, par exemple, demandent s'il faut, est-ce que si par exemple on débranche, c'est un péché ou non? Alors, est-ce que, mon père, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dans une situation pareille, ce n'est pas toujours évident. Moi, je leur disais tout simplement que, dans tous les cas, l'Église est là pour vous accompagner. C'est à vous de prendre la décision. Si vous acceptez qu'on débranche, l'Église vous comprend. Si vous dites non, l'Église également vous comprend. Nous sommes là pour vous accompagner, mais c'est à vous de prendre la décision. Et nous prions pour vous et avec vous. Quelques difficultés aussi, il y a eu, quand on se trouve devant la mort de nouveau-né à la maternité, on se retrouve impuissant, on se sent impuissant devant ces jeunes parents qui pleurent leur nouveau-né mort. Et puis, quelques moments difficiles quand on accompagne une personne qui vraiment a eu des difficultés dans sa famille et puis a eu à prendre des décisions pour éliminer telle ou telle personne de sa famille pour avoir la paix, soit son père ou sa mère, et qui, après, par exemple, se trouve en situation de maladie grave et qui se demande si c'est son enfer que, elle est en train de vivre sur cette terre et qui demande qu'on l'accompagne, qu'on prie pour elle, cela n'est pas toujours facile. Mais il faut être là. Bref, il y a aussi des joies. Des joies, par exemple, quand on y a la bénédiction de nouveau-né à la maternité, cela suscite beaucoup de joie. Non seulement pour l'aumônier, pour l'homme d'église, mais aussi pour les personnes. Ou bien quand, une fois ou l'autre, on reçoit une lettre qui vient d'un pays européen ou bien des États-Unis. Et on nous dit tout simplement, merci d'avoir été là quand mon père était malade au centre hospitalier Princesse Grâce, sans que nous-mêmes, nous ne nous en souvenions, ben, ça fait chaud au cœur et on rend grâce à Dieu pour tout cela. Mais dans tout acte, il faut toujours s'agenouiller devant Dieu, il faut toujours prier pour toutes ces personnes et puis surtout prier pour nous-mêmes, pour notre équilibre, pour que le Seigneur nous suggère les mots qu'il faut dire et les silences qu'il faut observer. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Bon, en fonction des questions, j'aurai l'occasion de répondre le plus près possible. Voilà, je vous remercie.
Alors, Père David Nono, qu'est-ce qui vous a conduit vers cette mission de la pastorale de la santé? Donc, vous nous avez dit que vous avez suivi des études de psychologie pour l'accompagnement des personnes âgées et en fin de vie. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ces études?
Mais ce qui m'a conduit, c'était tout simplement, j'avais voulu dans mon parcours sacerdotal, longtemps bien avant, être près de l'Église souffrante. Et lorsque je suis arrivé à Strasbourg, et puis j'avais cette opportunité, je n'ai pas hésité à me former pour ça. Et puis, comme j'étais dans le doyenné des Sirens, à l'époque, l'aumônerie de l'hôpital de Mulhouse n'avait pas d'aumônier catholique, puisque c'est une aumônerie œcuménique. Alors, le doyen a proposé, si ça me disait, puisque je lui en avais parlé, le doyen de Sirens, le père François, est-ce que ça me dirait d'être à l'aumônerie du centre hospitalier de Mulhouse? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est comme ça s'est fait. Et puis je suis allé dans cette aumônerie œcuménique avec les protestants. Nous avons échangé. Moi, j'étais pour la partie catholique avec un autre confrère à Nice, un Libanais. Et tout s'est bien passé. Et puis bon, j'ai continué dans cet élan-là jusqu'à un certain moment. Je me suis formé davantage. Et puis voilà, c'est ça surtout. Et quand je suis venu aussi à Monaco, j'étais dans la paroisse Saint-Nicolas avec le père Fabrice Gallo. Quand l'aumônier de l'hôpital aller à la retraite, l'archevêque m'a proposé, est-ce que ça vous dirait, puisque vous avez été formé pour cela, est-ce que ça vous dirait d'aller comme responsable de l'aumônerie du centre hospitalier Princesse Grâce? Bon, je n'ai pas hésité, j'ai dit, j'ai accepté, et puis voilà, je pensais que c'était pour 3 ou 4 années, et puis finalement, bon, 14 ans est passé. Donc, après, quand je commençais à avoir un peu la cinquantaine, et je demandais à l'évêque, je disais que je voudrais quand même reprendre une activité paroissiale parce que à l'hôpital, ce n'est pas toujours facile parce que À l'hôpital, vous avez 24 heures sur 24 la souffrance, la maladie et la mort. Et on reçoit beaucoup. Quand vous êtes seul à l'aumônerie, vous êtes livré presque à vous-même. Avec qui partager, ce n'est pas évident. Donc, quelquefois, il m'arrivait d'interpeller l'évêque, de partager avec lui et, sur certaines situations, et j'avais vraiment un écho favorable auprès de lui. Alors, en avançant en âge, je me suis dit que non, ben, arrivé à un certain moment, il fallait tout simplement lâcher ce ministère pour retourner en paroisse. C'est ainsi qu'il y a quelques années, qu'il y a maintenant 3 années, j'ai été affecté à la paroisse Sacré-Cœur Saint-Martin de Monaco. Et puis, l'évêque a voulu que je sois délégué épiscopal pour former tous les acteurs de la pastorale de la santé. Donc, ce que j'ai accepté, et puis c'est ce que je suis en train de mettre en place, et c'est ce que je fais avec plaisir toujours. Certes, je n'ai pas contact immédiatement avec les malades, mais d'une certaine manière, je suis aussi avec eux, puisque tous les bénévoles sont formés et j'ai contact avec eux. Et puis, par le service évangélique des malades paroissiales, je rends aussi quelques visites à des personnes âgées ou malades à domicile. Donc, le ministère continue autrement et avec plaisir.
Alors justement, parlons du service évangélique des malades. Si une personne se sent appelée à ce service, est-ce qu'il y a des dispositions ou des qualités préalables pour être bénévole dans ce service-là?
Oui, il faut déjà... ça demande beaucoup de discernement. Quand quelqu'un se propose comme bénévole, il importe d'échanger d'abord avec cette personne pour voir ses motivations, pour voir si vraiment ce bénévolat ne résulte pas de quelque chose de sa vie personnelle qu'elle a vécu, ou bien est-ce que ce bénévolat va se faire avec plaisir, parce que ça compte beaucoup. On ne vient pas pour être bénévole dans ce service-là, hein, parce que, en quelque part, on a voulu tout simplement dire que dans notre vie, il y a quelque chose qui s'est passé et que on veut à tout prix rendre ce que nous avons reçu par le biais du bénévolat, surtout dans le SEM, comme on a d'une manière générale affaire à des personnes soit malades à domicile ou des personnes âgées, il est important de discerner vraiment la personne qui va aller leur rendre visite. Il ne s'agit pas, oui, c'est de profiter de la situation de la personne qui est, hein, pour agir autrement, pour faire autrement, pour solliciter quelques services que ce soit. C'est très important. Donc le discernement des personnes bénévoles me semble capital dans ce domaine.
Oui, il faut être soi-même suffisamment solide pour aller au contact de situations parfois difficiles.
Et oui, ça c'est très important. Il faut être équilibré. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut être capable de pouvoir gérer ses émotions. Il ne faut pas faire de transfert de quelque manière que ce soit, parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui attend de vous une parole d'espérance, une parole d'église. Il ne s'agit pas de lui partager vos soucis et vos angoisses. Hein, ce n'est pas le but. Donc, il s'agit d'accompagner vraiment d'une assistance spirituelle, hein, auprès de cette personne, prier avec elle. Et puis, si la personne a besoin de sacrement, refaire monter l'information au curé de la paroisse pour qu'il aille donner le sacrement du malade à la personne ou bien lui apporter la communion. Bon, tout cela compte.
Et j'imagine également que pour un visiteur de malade, la prière personnelle est très importante.
Oui, il faut. Moi, je conseille aux visiteurs, avant d'aller visiter, il faut d'abord prier. C'est très important. Il faut prier. Non seulement pour que le Seigneur nous dévance dans le cœur de la personne qu'on va visiter, que le Seigneur nous donne, nous suggère les paroles d'espérance que nous pouvons dire en ce moment précis, qu'il nous suggère aussi les silences à observer et l'écoute, puisque on va pour accompagner, on ne se substitue pas à la personne. Donc il faut écouter et puis réagir en temps opportun, comme il faut. C'est très important.
Alors vous parlez de silence. Ça peut faire peur à certaines personnes, justement, le silence, de ne pas savoir quoi dire, d'être devant quelqu'un qui est silencieux. Ça peut le silence peut apporter vraiment quelque chose, vous dites.
Oui, mais si vous arrivez au domicile de la personne, elle vous reçoit, vous échangez avec elle et puis à un moment, elle veut garder le silence, il faut respecter ce silence. Hein? Il y a des fois aussi, il se trouve qu'elle permet, si elle veut que vous preniez sa main, il ne faut pas, parce que le toucher aussi peut compter. Donc, tout dépend, on peut rester dans le silence et puis après, une proposition de prière. Si elle veut, on fait ce que la personne souhaite qu'on fasse. On fait tout pour ne pas imposer notre présence et puis déblatérer tout ce que nous avons envie de dire. Et puis, non, on voit en cette personne tout ce qui peut briller, les étincelles qui peuvent lui faire s'accrocher à une espérance donnée. Et on va dans ce sens avec elle. Il faut être positif. Il ne s'agit pas de tirer la personne vers le bas, comme on dit de manière triviale. Mais il faut rester dans une ambiance positive, dans une ambiance fervente, parce que vous représentez aussi là l'Église, hein, auprès de cette personne. Donc, vous échangez les nouvelles de la paroisse, puisque elle ne peut plus aller à la paroisse pour X raisons, et puis vous pouvez prier avec elle, et après, quand vous sentez que le moment est prêt pour que vous disposez d'elle, ben, vous le faites. Hein. Il ne s'agit pas de rester non plus indéfiniment.
Père David Nana, vous avez parlé en première partie d'émission des familles qui ont également des questionnements. Que diriez-vous à une personne dont le parent est hospitalisé en fin de vie et qui semble ne pas réagir à ce qui se passe autour de lui, sans être dans le coma, mais qui ne réagit pas physiquement, qui ne répond pas quand on lui parle. Et donc les membres de sa famille qui diraient « mais de toute façon, ça ne sert à rien de lui parler, il ne réagit pas, il n'entend pas ». Qu'est-ce que vous diriez à ces familles ?
Mais devant une telle situation, évidemment, s'il ne réagit pas et puis il n'entend pas, dans tous les cas, moi je pense que dans un premier temps, le fait, si on peut le toucher, c'est toujours bien, parce que le toucher est réconfortant, mais surtout dans un état pareil, on ne peut que garder le à mon avis, mais puis je pense qu'il faut garder le silence et puis prier important pour cette personne. Et puis avec la famille, c'est surtout dans un état pareil, c'est la famille qui en a le plus besoin, donc qui est presque au bord du désespoir. Donc il faut être présent, dire à cette famille que nous sommes là, que l'Église est présente, que on prie que on peut prier si elle, si la famille est disposée, on peut prier avec elle pour cette personne. Mais il y a des moments où le silence vaut la peine, parce qu'il ne s'agit pas de chercher à tout prix à brasser l'air par la parole, le silence, le contact. Moi, je pense que en ce moment-là, sont des rigueurs, quoi.
Néanmoins, les membres de la famille peuvent peut-être dire quelque chose qui leur tient à cœur à leur parent qui est en train de qui est en fin de vie. Il y a peut-être des même s'ils ont l'impression que la personne ne réagit pas, il y a peut-être s'ils ont des
Oui,
choses à lui dire, des pardons à demander ou à donner, c'est peut-être le moment, même s'ils ont l'impression que rien ne se passe, c'est peut-être le moment de le dire.
alors, devant un membre de la famille qui est en train de mourir dans le coma, il importe que les membres autour de lui, déjà, lui donnent des paroles positives. Et surtout, si c'est le moment, s'il y a lieu de se réconcilier avec la personne, entre les membres de la famille, de se réconcilier d'abord entre elles, et puis dire à la personne en train de partir que, effectivement, l'esprit dans lequel elle a voulu que la famille tienne sera toujours maintenu, si c'est le cas. Et demander à dire beaucoup de paroles affectives à cette personne. On peut aussi tenir la personne par la main car le toucher est aussi important. Il y a des fois, elles réagissent au toucher. Et donc, dans cette ambiance-là, c'est très important de se réconcilier, et puis de dire des paroles affectives et positives à cette personne qui est en train de partir et de prier aussi pour elle. Il ne s'agit pas aussi de passer son temps à parler, à parler, à parler. S'il y a des silences, si le silence aussi peut être observé avec le toucher et puis prier pour cette personne intérieurement.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message particulier pour les auditeurs de Radio Maria?
Ben, Radio Maria a fait des belles émissions, et ici à Monaco, on écoute beaucoup Radio Maria. Alors, je souhaite que tous les auditeurs de Radio Maria restent toujours fidèles à cette radio, que ce soit les personnes malades, que ce soit les personnes bien portantes. C'est une radio d'espérance, et j'encourage toute l'équipe, et puis que votre pastorale continue le bon plaisir de toute la chrétienté. Et puis merci pour tout ce que vous n'avez cessé de faire jusqu'à aujourd'hui.
Amen. Merci beaucoup, Père David Nana, et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission.
Merci beaucoup. Au
Au revoir,
revoir.
merci.